On en parle dans la presse, c'est sur les réseaux sociaux, c'est avec vous, Clément Barguin, l'ouragan Laura qui a été particulièrement violent aux États-Unis.
Oui, l'ouragan Laura qui a fait au moins 6 morts dans le sud des États-Unis. Alors sur les 6 victimes décédées comptabilisées selon un bilan provisoire, 4 ont été tuées par des chutes d'arbres sur leurs habitations. Une s'est noyée après que son bateau eût été emporté dans le cyclone et la dernière a succombé à une intoxication au monoxyde de carbone. Des vidéos impressionnantes circulent sur les réseaux sociaux et on se rend bien compte de la puissance de cet ouragan. Voilà, l'ouragan qui a touché terre en catégorie 4 sur 5, c'est particulièrement élevé. Il est arrivé dans le golfe du Mexique avec des vents soutenus à 240 km/h et des scènes de désolation, des arbres et des lignes électriques à terre, des bâtiments détruits, des toits arrachés, des rues inondées ou couvertes de débris. Près de 800 000 personnes étaient privées d'électricité hier soir en Louisiane et au Texas.
Et l'ouragan Laura qui est le plus puissant à avoir touché la Louisiane depuis plus d'un siècle et demi.
Ouais, c'est impressionnant. Il a été rétrogradé depuis en tempête tropicale, mais si la dépression a considérablement faibli après avoir touché terre, les météorologues continuent de mettre en garde contre les inondations. La saison des ouragans dans l'Atlantique, qui dure officiellement du 1er juin au 30 novembre, s'annonce particulièrement intense cette année. Le Centre national des ouragans s'attend à 25 dépressions. Laura est la 12e. Elle avait déjà provoqué d'importantes inondations en Haïti et en République dominicaine, entraînant la mort d'au moins 25 personnes.
On en parle également dans la presse et sur les réseaux sociaux. Alors c'est plus léger, écoutez bien, en Italie, un village offre des séjours gratuits.
Et oui, ça vous dit de partir en Italie gratuit. En tout cas, le succès est au rendez-vous et ce malgré la crise du coronavirus. C'est le village de San Giovanni in Galdo qui a reçu plus de 8000 demandes de réservation. Ah oui. Un engouement après le lancement en juin d'une campagne destinée à promouvoir la région du Molise. Et c'est une association locale qui a proposé des séjours gratuits sur place pour attirer les vacanciers malgré la crise sanitaire, et des touristes du monde entier se sont manifestés. Les organisateurs ne s'attendaient pas à un tel succès. L'opération est désormais close et au total 250 touristes sont accueillis dans le village jusqu'au 3 octobre. Avec cette initiative, les organisateurs espèrent avoir inspiré d'autres villages de la région à en faire de même pour faire découvrir leur patrimoine. Bah, ça donne envie quand même de partir en Italie gratuitement.
Bah oui, mais alors c'est trop tard, on ne peut plus y aller.
Bah, peut-être qu'il y aura d'autres événements organisés.
En tout cas, avant de partir en Italie, Clément, vous restez avec nous pour la revue de presse et ce matin, forcément, à la une, encore ce coronavirus qui gagne du terrain.
Les signaux virent au rouge, titre la Dépêche du Midi. 21 départements sont sous surveillance, dont 3 en Occitanie où le virus circule activement. Le Premier ministre a présenté hier de nouvelles mesures pour éviter un reconfinement généralisé. Jean Castex qui martèle les gestes sanitaires à respecter. Distanciation, masque et gel hydroalcoolique. Car si l'heure n'est pas à l'affolement, insiste Jean Castex, elle est très certainement à la vigilance et à la responsabilité. Nous sommes dans une phase incontestable de recrudescence de l'épidémie, alerte le Premier ministre. Et dans ces 21 départements, les préfets vont serrer la vis sur les rassemblements et sur le port du masque. Masque obligatoire partout, titre le Parisien. Et à Paris, et sa petite couronne s'est actée. Le masque est obligatoire depuis 8 heures ce matin.
Oui, c'est important pour nos auditeurs parisiens. Mettez le masque. En tout cas, le masque qui sera également obligatoire à l'école dès mardi pour la rentrée, pour les élèves de plus de 11 ans. Le protocole sanitaire qui se précise, mais les doutes qui persistent aussi, Clément.
Les profs toujours pas rassurés. C'est à la une de Midi Libre. Les enseignants ont hâte de retrouver leurs élèves, mais redoutent que le protocole sanitaire ne réponde pas à toutes les situations. Dans les établissements scolaires, les recommandations censées les éclairer sur l'organisation concrète, par exemple de la cantine ou des cours de PS, n'arriveront qu'en fin de semaine, la veille de la rentrée. Quant à la procédure qui s'enclenchera au premier cas positif en classe, nous n'avons pas de réponse, tacle Sophie Vénitité dans les colonnes du Parisien. C'est la numéro 2 du SNES, principal syndicat dans les collèges et lycées. La virologue Christine Rouziou, membre de l'Académie de médecine, prévient le 1er septembre est une date couperet.
Et à la veille de cette rentrée, il y a la queue devant les centres de dépistage et labos. De nombreux Français qui veulent se faire dépister.
Les laboratoires saturés à la une de Vaucluse matin. Avec la recrudescence de l'épidémie, la demande est exponentielle parce que certains se pensent malades, que d'autres estiment avoir côtoyé des gens qui pourraient l'être ou parce que les clubs sportifs collectifs exigent des tests. Des milliers de Français se ruent sur les laboratoires. Asphyxiés, ils n'arrivent plus à traiter les réelles urgences, peut-on lire dans Vaucluse Matin. Le gouvernement, pour sa part, veut monter à court terme à 1 million de tests par semaine pour juguler l'épidémie, contre plus de 800 000 actuellement. C'est ce qu'a indiqué hier le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui affirme que le but est de rendre disponibles les tests pour tous ceux qui le nécessitent et tous ceux qui le souhaitent. Mais face aux délais d'attente qui sont souvent longs, même très longs, beaucoup restent sceptiques.
Et alors face au virus, Clément, un front commun s'organise à Marseille.
Marseille fait front, titre La Provence. Michel Rubirola, la maire de Marseille, Martine Vassal, la présidente de la métropole et du département, et le professeur Didier Raoult, tous les trois ont tenu une conférence de presse commune hier. Le professeur Raoult a d'abord pris la parole en rappelant qu'il lui était incapable de prédire la suite de l'épidémie. Il faut calmer, rassurer les malades et leur donner de l'espoir. Le pessimisme tue les malades, a martelé Didier Raoult. Michel Rubirola a ensuite présenté de nombreuses mesures à venir contre l'épidémie. 500 000 masques réutilisables seront distribués par les mairies de secteur à Marseille. Des dépistages gratuits seront également organisés. Martine Vassal et Michel Rubirola sont également d'accord pour déplorer le manque de concertation avec le gouvernement, note La Provence. Le préfet de région a fait preuve d'écoute, pas le gouvernement qui décide tout depuis Paris sans nous donner les moyens. Il faut plus de concertation et par exemple des effectifs de police suffisants, a déclaré Michel Rubirola. De son côté, Martine Vassal s'inquiète des conséquences de la fermeture des bars et restaurants à 23h. Les querelles politiques sont donc mises de côté à Marseille et la gronde contre le gouvernement commence à monter.
À Marseille où d'ailleurs les prix de l'immobilier augmentent, un peu comme partout en France en fait.
Oui, hein. Le Parisien aujourd'hui en France révèle les indices de meilleurs agents. Les loyers augmentent dans toutes les grandes villes françaises. Rennes, capitale de la Bretagne, reste la moins chère de France, mais compte la plus grosse augmentation sur un an, plus 5,9%. Les loyers sont en forte augmentation également à Nantes ou encore Toulouse. Quelques exemples, hein, le prix moyen d'un deux pièces vide est de 573 euros à Toulouse, 625 euros à Montpellier, 636 euros à Marseille, 799 euros à Nice. Et le record, c'est à Paris pour un deux pièces non meublé. Il faut débourser en moyenne 1284 euros par mois. Et face à ces augmentations, certaines villes veulent mettre en place l'encadrement des loyers. C'est le cas notamment de Bordeaux, Lyon ou encore Villeurbanne.
Merci beaucoup Clément Barguin. On poursuit cette revue de presse avec Midi Olympique. Et la une, on la découvre avec Emmanuel Massicard qui est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Directeur de la rédaction du Midol avec une question en une. Hein. Si on jouait, c'est ça la question en fait. Attend tous.
Oui, exactement. Et si on jouait dès à présent, dès le week-end prochain avec la reprise du top 14 et de la Pro D2 en attendant les compétitions amateurs, c'est parce qu'on a tout simplement besoin d'un petit peu de plaisir. On a besoin de retrouver le rugby, du jeu évidemment, mais aussi le rugby. C'est un des rares sports à ne pas avoir repris. Et aujourd'hui, la Ligue nationale de rugby a mis un protocole sanitaire en place drastique pour essayer de tenir le rendez-vous. Et tout le monde attend la reprise avec impatience.
Avec des clubs qui s'en sortent mieux, parce qu'on l'entendait il y a quelques semaines, hein, récemment, on avait des cas positifs dans certains clubs, notamment au Stade français, mais aussi ailleurs. Actuellement, c'est sous contrôle à quelques jours de cette rentrée des classes.
C'est difficile à dire. On sait qu'il y a deux matchs amicaux qui ont été annulés dès à présent ce week-end. Donc on peut dire que le rugby n'échappe pas à l'épidémie et que le Stade français n'est pas le seul club concerné. Il y en a eu à Nevers, il y en a eu à Toulouse, il y en a eu à Lyon, aujourd'hui à Lyon. Oui, il y en a partout dans tous les clubs.
Qu'est-ce qui va changer par rapport à une saison normale, entre guillemets, dans le jeu, dans la manière dont vont s'organiser ces rencontres, justement, avec ce Covid-19?
Ce qui change déjà présent, c'est que le diffuseur Canal+ a souhaité avoir ses affiches prime time en doublette. C'est-à-dire que si un match est annulé, il y aura un deuxième match qui sera programmé en doublette au même moment pour permettre à Canal d'avoir une affiche. Ce qui change, ce sont pour l'instant des mi-temps de 20 minutes. Alors, on dit que c'est pour favoriser la circulation des gens dans les tribunes pour aller notamment aux toilettes. Faut pas être dupe, c'est aussi pour permettre au club d'avoir une meilleure commercialisation dans les buvettes et aux boutiques. Je sais pas si c'est très safe au niveau du coronavirus, mais toujours est-il que ça fait des matchs à rallonge. qui va changer aussi, c'est que les clubs sont en train de discuter beaucoup autour de la Ligue nationale de rugby, de leur avenir. Savoir s'il faudra une relégation, savoir s'il faudra un champion de France. Ouais. Parce que tout le monde s'attend à ce qu'il y ait des matchs annulés et tout le monde s'attend à ce que la compétition soit impactée. Donc en termes d'équité, les clubs sont déjà en train de se dire qu'il vaut mieux... Il vaut mieux peut-être prévoir que pas de relégation. On dirige vers, comme ça, sur le papier, on dirige vers une ligue fermée, rien n'est fait. Mais c'est un vrai sujet d'actualité aujourd'hui.
Ouais, c'est une vraie question en tout cas. Dernier week-end de matchs amicaux avant cette reprise de Pro D2 et de Top 14. Et donc c'est à lire hein, ce matin dans Midi Olympique. Merci Emmanuel Massicard d'avoir été avec nous.
Merci.
Ce matin sur Sud Radio, directeur de la rédaction du Midi Olympique.
Sud Radio, il est... Bon, au revoir, pardon. Sud Radio, il est 9h15 et surtout ne bougez pas parce qu'on part dans le Lot hein, dans un instant pour les Gîtes de France. À tout de suite.